12h en temps universel, 13h à Bangui, capitale centrafricaine, le journal avec Reine-Fabienne Dotiga. Reine, bonjour.
Bonjour Nina Verdiania Baudé, bienvenue à tous dans cette édition. Le chef de l'État, Faustin Franche Touadéra, a rendu hommage ce matin aux militaires tombés au front en mai dernier à Nzako. Occasion pour le président de remettre des kits scolaires aux orphelins et veuves des militaires morts au combat depuis l'événement de la CPC. La République centrafricaine est classée parmi les pays les plus pauvres au monde. Elle occupe la 188e place et plus de 80% de la population vit au seuil de la pauvreté. Deux semaines après le lancement de la rentrée scolaire à l'école Pétévaux dans le 6e arrondissement, la rentrée des classes n'est pas effective. Quelles sont les raisons? On en parle dans ce journal. Avant la page sport consacrée exclusivement au football, on va parler des difficultés de la mairie de Gbaoui Tédoua dans la sous-préfecture de Baoro.
D'abord, Rennes, le programme des Nations Unies pour le développement a publié son rapport sur l'indice du développement humain.
Oui, Verdiane, la République centrafricaine occupe le 188e rang mondial et 50e en Afrique avec un taux de pauvreté qui touche près de 80% de la population. Un positionnement qui place le pays parmi les plus pauvres de la planète devant le Niger et le Tchad. Des détails de Vianney Ingassou.
Le classement prend en compte la question du développement humain des pays en se basant sur plusieurs données impliquant entre autres le niveau d'éducation de la population, la santé et le revenu. Selon ces données, la République centrafricaine est classée 188e sur 191 pays. Elle est fortement touchée par la pauvreté. Le revenu par habitant est faible en raison de la fragilité financière. En cause, la pandémie mondiale de COVID-19, les conflits locaux ou régionaux qui ont durement impacté l'économie mondiale. En ce qui concerne la RCA, le coefficient d'inégalité humaine est un peu plus de 40% avec seulement 4% d'utilisateurs d'Internet et un manque de politique axée sur les investissements. Plus de la moitié des Centrafricains sont touchés par la pauvreté et manquent de l'essentiel pour vivre. En juin dernier, la Banque mondiale avait fortement exhorté le gouvernement centrafricain à investir dans le capital humain pour briser le cycle de la pauvreté dans le pays. Contrairement en 2020 où la Centrafrique occupait le 166e rang mondial, elle a perdu plus de 20 places pour se placer au 188e rang avec un indice de développement humain le plus faible du monde.
Et puis comme annoncé dans les titres, Rennes, nous parlons de cet acte posé par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra envers les orphelins et veuves des militaires tombés au front.
Effectivement, ce matin au camp Kassai, le président de la République a rendu hommage aux militaires tombés au front en mai dernier à Nzako. Une occasion pour lui également d'offrir des kits scolaires aux orphelins des militaires décédés sur le terrain depuis l'événement de la coalition des patriotes pour le changement CPC. Bonaventure Ngomba Katikiro.
Le président de la République, chef de l'État, sur proposition du ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, le Conseil des ministres entendu.
Vêtu de costume bleu nuit, visage serré, Faustin Archange Touadéra rend hommage aux militaires tombés au front, précisément à ceux qui sont morts en mai 2022 dans l'attaque de leur base par des éléments de la CPC à Nzako dans le Mbomou. Le chef de l'État a décerné un galon à titre posthume au commandant Arnaud Didier Douy qui coordonnait le détachement des FACA à Nzako. Il est promu lieutenant-colonel. Faustin Archange Touadéra a remis l'insigne de lieutenant-colonel et un képi à la veuve. Les orphelins et veuves des militaires tombés au front depuis l'avènement de la CPC en janvier 2021 ne sont pas laissés de côté. Ils sont plus d'une centaine et à l'occasion de cette rentrée scolaire, le chef de l'État leur a remis des kits scolaires. Diane Damango est une veuve.
J'ai 4 enfants. Mon mari, c'est le vomitaire de Hippolyte. Nous essayons de décider sur le terrain. Et j'aime beaucoup ce que le président a fait aujourd'hui. Et ça nous remarquait beaucoup. On a dit merci beaucoup papa à la rentrée de nos enfants. Il a pensé quand même à nous pour donner quand même les choses pour donner avec notre enfant pour aller à l'école. On a donné la sac avec de l'argent pour qu'on a payé de quelque chose avec les enfants. Moi, je souhaitais pour que notre président ait vu peut-être parmi mes enfants qui peuvent aller à la militaire, qui peut aller mieux qu'il continue toujours pour aider notre famille.
Les veuves et orphelins insistent sur la pérennisation de cette action pour honorer la mémoire de leur mari mort sur le terrain.
Merci à vous, Bonaventure Ngomba Katikiro.
Rennes, le journal se poursuit. Les députés ont adopté hier, par acclamation, la loi sur les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Oui, Verdiane, c'est la première loi adoptée au cours de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée qui se poursuit. Cette loi vient protéger les droits et renforcer le traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida en République centrafricaine. Prudence Gisèle Huguet a pris part au débat.
L'accent est mis sur la prévention pour barrer la route au VIH-Sida. Le dépistage est élargi. Docteur Pierre Somsé, ministre de la Santé, a défendu la loi sur le droit des personnes vivant avec le sida.
C'est une loi qui nous permet de renforcer la prévention en étendant le champ du dépistage pour inclure les enfants. L'âge de dépistage a été porté de 18 ans à 12 ans. La discrimination empêche les gens de connaître leur statut, d'accéder tôt au traitement et de vivre longtemps.
La stigmatisation est désormais condamnable. Nestor Mamadou Nali, président de la commission mixte qui a travaillé sur ce projet de loi.
Tout le sens de cette loi, c'est pour mieux les protéger. Il ne faut pas les discriminer. Ça oblige l'État à faire beaucoup d'efforts pour fournir des médicaments, venir en besoin aux personnes infectées.
Souvent marginalisées, stigmatisées ou traumatisées, les personnes vivant avec le VIH-Sida pourraient désormais inquiéter ceux qui se moquent d'elles. Mais bienvenue Gazalima, coordonnateur national du réseau des personnes vivant avec le VIH, encourage ses pairs à prendre leurs médicaments.
Mon message, c'est de communiquer aux Centrafricains que le VIH n'est plus un tabou à ce jour-ci. Mais c'est les personnes qui tuent ceux qui vivent avec le VIH-Sida. Donc ceux qui ont le Sida doivent accepter de vivre avec le VIH-Sida en prenant correctement leurs médicaments. C'est la réponse à la lutte contre le VIH-Sida.
Cette loi vient combler les lacunes de l'ancienne version pour relever le défi d'une génération sans sida d'ici 2030.
Autre fait d'actualité, le Haut Conseil de la communication dénonce les intimidations et acharnements dont certains professionnels de médias font l'objet ces derniers temps en République centrafricaine.
Dans un communiqué, l'organe régulateur appelle au respect de la loi qui régit la liberté de la communication dans le pays. Vincent Namrona, rapporteur général du Haut Conseil de la communication avec Igor Descansena.
Les messages haineux, la désinformation sont montés en puissance. Et lorsque les journalistes essaient d'en parler dans leur production, ils font l'objet des menaces de la part, que ce soit les hommes politiques, que ce soit ceux qui sont au sein de la société civile, même les citoyens lambda. Parfois, on voit des messages privés pour menacer les journalistes. Et le Haut Conseil de la communication, qui est le garant de la liberté de la presse, qui veille également à la sécurité des journalistes, qui veille également aux conditions dans lesquelles les journalistes font leur travail, eh bien, s'inquiète pour ça. C'est pour cette raison-là que nous avons souhaité sortir ce communiqué de presse pour attirer l'attention de ce qui se passe, du danger qui guette les journalistes dans l'exercice de leur fonction tous les jours. Il y a quelques jours en arrière, les journalistes ont été invités à prendre part à un point de presse. Et au cours de ce point de presse, on leur a demandé de ne pas couvrir certains sujets importants, notamment la dernière décision rendue par la Cour constitutionnelle relative à l'écriture de la nouvelle constitution de notre pays. Et nous pensons que pour nous, en tant que régulateurs, en tant que garants de la liberté de la communication en Centrafrique, cela est purement et simplement de la censure qui est proscrite par la loi. Parce qu'il n'appartient pas à quelqu'un, à X ou à Y, de dire aux journalistes, telle information vous devez en parler, telle autre information vous ne devez pas en parler. Les journalistes sont libres.
Vincent Namrona, rapporteur général du Haut Conseil de la communication.
La mairie de Gbaouité-Doua, dans la sous-préfecture de Baoro, peine à fonctionner normalement.
Elle est confrontée à beaucoup de difficultés. En plus du manque de personnel et d'équipement de bureau, l'institution fait face aux problèmes de financement. Christ Chanel Demango, de passage dans la localité, a rencontré la maire de Gbaouité-Doua.
Les difficultés entravent le bon fonctionnement de la mairie de Gbaouité-Doua. Irène Célestine Gonon-Agbo, présidente de la délégation spéciale de la mairie de Gbaouité-Doua, énumère quelques-unes de ces difficultés.
On a pas mal de difficultés. Compte tenu de plusieurs arriérés, on a seulement deux gardes municipaux, alors qu'on a beaucoup de choses à faire sur le terrain. Beaucoup de nos recettes nous échappent et on a 26 mois d'arrière. Pour le moment, on a même des difficultés pour avoir des fournitures de bureaux. Aujourd'hui, le monde a évolué. La plupart des bureaux est doté par des ordinateurs, des panneaux solaires. On continue toujours à écrire avec les écritoires. Et même les machines à taper qui sont là, c'est en mauvais état.
Arriéré de salaire parce que l'effectif réduit du personnel ne permet pas une bonne mobilisation de recettes.
On vient de faire même le budget. On a essayé d'améliorer quand même le niveau de notre budget. Cette année-ci, c'est à 9 millions forts. Celui de l'année passée, c'était à 8 millions et quelques. Mais ce n'est pas encore ça. L'objectif que moi, personnellement, j'ai visé, ce n'est pas encore ça. Certains commerçants qui sont là, ils n'ont même même pas le rein solide. Donc, si on ferme le boutique, on voit aussi le côté familial. Les enfants aussi vont souffrir. Si nos contribuables sont vraiment réguliers, nous pouvons vraiment tenir le coup.
Plusieurs structures de l'État présentes dans la sous-préfecture de Baoro sont presque dans les mêmes situations. Christ Chanel Demango, de retour de Baoro, Radio Ndekeluka.
À Rennes, c'est la deuxième semaine après la rentrée scolaire. Les élèves traînent encore les pas à l'école Pétévo dans le 6e arrondissement de Bangui.
Oui, Verdian, très peu d'élèves viennent au cours. L'effectif est réduit cette année. Alexa Félix Yangbandi s'est intéressée aux raisons de cette réticence. Reportage.
Le top est donné, mais la reprise est timide à l'école Pétévo. Désintéressement, la directrice de l'établissement a remarqué une réticence. Arlette Enza.
Les parents, peut-être, ils attendent à partir du 15 octobre jusqu'au début novembre pour qu'ils amènent les élèves. Alors, ça pose problème. Comme ça, au moins, s'ils amènent les enfants, on va procéder aux révisions. Comme ça, ça va mettre les élèves dans le bain du travail. Donc, je demande toujours aux parents de laisser les élèves venir à l'école.
Certains parents avancent comme raison, manque d'argent. D'autres préfèrent inscrire leurs enfants dans des établissements privés. Devant le portail, nous rencontrons Hippolyte Maïtou qui vient d'inscrire ses deux enfants.
Bon, pour les inscriptions, je suis venu en retard parce qu'il y a problème de l'argent aussi. C'est ça qui m'a un peu retardé. Mais j'ai fait un effort de venir inscrire mes enfants à l'école.
Fulgence Clotaire-Bouta, président de l'association des parents d'élèves de l'école Pétévo, donne certaines raisons qui empêchent les parents d'inscrire à temps leurs enfants.
Les écoles privées qui sont partout dans les quartiers. Peut-être les parents trouvent mieux d'aller inscrire leurs enfants dans les privés. Ouais, c'est vrai que le début, donc il faut accorder au moins un mois. Au niveau de l'école Pétévo, on n'a pas assez d'enseignants. Ils ne sont pas nombreux, donc c'est pour cela que les parents trouvent mieux d'aller inscrire leurs enfants dans certains privés de leur choix.
Les inscriptions se poursuivent selon les autorités de l'école Pétévo. La reprise des cours en retard a souvent des impacts dans la progression des programmes. Les élèves des établissements publics terminent souvent difficilement les programmes et sont défavorisés pendant les examens.
Hors de nos frontières, en Guinée équatoriale, libération de plusieurs militants d'un parti d'opposition.
Oui, les autorités ont annoncé hier la libération de 119 militants du parti Citoyen pour l'Avenir, arrêtés par la police lors d'un assaut qui avait fait 5 morts la semaine dernière. Cette opération a conduit à l'arrestation de 150 sympathisants, dont le leader du parti Gabriel Tse Obiang. Aucune charge n'a été retenue contre eux.
La page sport de cette mi-journée football, la 14e journée du championnat de Bangui des moins de 20 ans se poursuit.
Oui, ce matin au stade Barthélémy Bougonda, Sika Sport a battu USKA 1 à 0 et Red Star et Assedo Gobongo ont fait match nul, 0 but partout. Hier, Real Comboni a battu les Anges de Fatima par forfait et Asso PTC est imposé devant FCFDS 3 à 1.
En football toujours, Rennes, la Ligue de Bangui se félicite de la reprise du championnat de la saison 2022-2023.
Position exprimée après 3 journées de matchs disputés en première division et une journée en division inférieure. Par ailleurs, la Ligue appelle les amoureux du ballon rond à se mobiliser autour de leurs différentes équipes. Rodrigue Placide Mapuka, président de la Ligue de football de Bangui, est interrogé par Claire Assambadinka.
C'est une satisfaction de la part de la Ligue parce que vous voyez que les matchs qui sont joués, ce sont des très beaux matchs. Même l'équipe qui vient de monter en première division, RC3, a déjà 3 victoires. Donc, on ne peut pas minimiser un club. Les scores sont toujours serrés. C'est un match très engagé, donc c'est un bilan satisfaisant. Nous ne pouvons que souhaiter la bienvenue à ces deux clubs-là, Caisse nationale de sécurité sociale, qui a fait son entrée d'une manière très positive, les frères centrafricains aussi. Donc on attend un peu voir ce qu'ils vont faire. Par rapport au calendrier de cette année, nous avons planifié mettre tous les matchs de la division supérieure que le week-end. C'est aussi une manière de pousser ces clubs de la deuxième division de doubler plus d'efforts pour jouer le week-end comme les autres. C'est le week-end, c'est aussi une distraction de la part de ceux qui sont restés à la maison pour se reposer, d'aller et de venir voir le match le week-end. Donc c'est aussi une satisfaction de leur part parce que nous avons eu beaucoup de félicitations par rapport à ce calendrier que nous venons d'établir.
Du foot encore à boire dans la Nanamambéré, c'est la reprise du championnat après près d'un an de suspension.
Oui, c'était vendredi dernier que les autorités locales ont officiellement lancé la reprise du championnat dans la Sous-Ligue de Boire. En match d'ouverture, Fatima s'est inclinée devant Abeille 1 à 0. Isaac Denamgan, président de la Ligue de football de Nanamambéré, se réjouit de cette reprise. Il a dit au micro de notre correspondant Belios Benjamin Abo.
On leur a laissé des messages lors de l'Assemblée générale que chaque sous-ligue devait aller préparer son calendrier et d'en faire acheminer au niveau de la ligue. C'est ce que la sous-ligue de Boire a fait avant. Donc les autres sont en train de se préparer, les clubs qu'ils ont respectivement dans leur sous-ligue. Nous ne sommes pas tellement en retard, ça va être fait dans ces jours-ci. Ce championnat, je crois que c'est une opportunité pour les sous-ligues parce que le championnat de cette année-là va se faire en trois phases. Le championnat de sous-ligue, ensuite le championnat de la ligue, ce qui va regrouper toutes les sous-ligues de la préfecture. Ensuite, lorsqu'on va avoir le champion de la ligue, on va aller tourner le championnat de la zone. C'est cette particularité-là que j'ai demandé à chaque club d'avoir envie de gagner pour représenter la préfecture.
Voilà tout pour ce journal préparé par l'équipe de la rédaction de Radio Ndeke Luka. Merci de votre fidélité d'écoute. La version langue nationale, c'est tout de suite.